Voilà, bonjour à tous. Le Seigneur a déjà parlé ce matin et on ne doit pas oublier, on ne doit pas laisser de côté ce qu'on a entendu et juste passer à autre chose. On doit méditer, on doit réfléchir, on doit prendre ces choses au sérieux, n'est-ce pas, et considérer ça chez soi aussi. Alors, j'ai pas préparé grand-chose parce que j'avais pensé il y aura toute l'introduction pour du travail parmi les enfants, mais Alex a fait passer plus tôt, ce qui veut dire que je me trouve... Donc je suis très reconnaissant qu'il y avait les exhortations aussi, parce que je n'ai pas préparé une grande prédication. Alors, le thème de la prédication, c'est avec quel maître on est uni. Et je vais expliquer cela un peu mieux, bien sûr, mais simplement en reprenant... un passage qui se trouve dans Romains 7, qui est un passage de la doctrine de l'apôtre Paul, qui était très difficile, très sérieux, crucial dans l'enseignement de l'Évangile. Et ce chapitre 7 semble parler de tout à fait autre chose que le thème que je voulais aborder ce matin, ce qui parle de l'union de l'homme et de la femme. Mais j'aimerais juste prendre ce passage ou certains éléments de ce passage et l'appliquer à une alliance qui nous est imposée dès notre naissance. Et cette alliance, elle a été choisie par l'homme dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu avait donné sa loi, la loi existait avant que le péché soit là, puisqu'il avait dit « Tu pourras bénéficier de tout le jardin d'Éden, mais tu ne toucheras pas de cet arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et c'était la loi, une loi qui est tellement juste, qui est tellement facile. N'est-ce pas, c'est facile. Si Dieu avait dit « Tu peux toucher à cet arbre-là, mais à rien d'autre. » Hein, c'est... Quelquefois, c'est comme ça qu'on est avec nos enfants. On leur dit, tu peux toucher à ça, tu peux faire ça, mais rien d'autre. Mais Dieu, c'est le contraire. Il nous donne la plénitude. Et c'est un Dieu comme ça que nous avons, qui nous est présenté dans la Bible, c'est la plénitude. Mais il y a aussi la loi. Il y a quelque chose qui met des limites à ce que tu peux faire. Et c'est merveilleux, c'était merveilleux pour Adam et Ève d'être là-dedans. Mais ils ont choisi une alliance lorsqu'ils ont désobéi, n'est-ce pas? Ils ont choisi de rompre cette alliance avec Dieu. Parce que Dieu les avait créés de sorte à ce qu'il y ait une alliance entre eux et lui, une alliance parfaite. Et ils ont décidé de rompre cette alliance pour s'allier avec quelqu'un d'autre. Et on va voir que ce quelqu'un d'autre, c'est eux-mêmes. Et je pense que le drame, c'est que nous sommes maîtres de nous-mêmes, ou nous avons pour maître nous-mêmes, le soi. Vous savez, les gens sont quelquefois délivrés, racontent leur témoignage de comment ils ont été délivrés de la drogue, comment ils ont été délivrés de l'alcoolisme, comment ils ont été délivrés du tabac, comment ils ont été délivrés de ceci et cela. Mais combien c'est puissant quand quelqu'un peut dire « Moi, j'ai été délivré de moi-même. » J'ai vraiment eu la délivrance de moi-même. Parce que le gros problème, c'est soi-même, n'est-ce pas? Et ce conflit est tellement bien décrit dans le chapitre 7 de Romains vers la fin. Lorsqu'il y a des choses qui sont, lorsque l'apôtre Paul dit « Voilà, je veux faire le bien » et il en ressort le mal. En fait, c'est un cri, n'est-ce pas, qui est prononcé, qui est « Seigneur, délivre-moi de moi-même. » Et dans le début du chapitre 7, c'est comme une allégorie, c'est comme une image de l'homme qui est marié à la femme. Et là, il est décrit l'homme, l'alliance de l'homme et de la femme, et je vais la prendre comme l'alliance de l'homme avec le soi, c'est-à-dire avec lui-même. Et de cela, il y a besoin d'une délivrance. De cela, il y a besoin qu'il y ait la mort qui intervienne. Et dans le chapitre 7, au début, il est question de la mort. Parce que le seul moyen, nous rappelle l'apôtre Paul, de rompre une alliance, c'est qu'il y ait la mort d'un des deux membres de l'alliance. C'est ça qui est dit. Or, donc il faudra, pour que cette alliance soit brisée, qu'il y ait la mort de l'un ou de l'autre. C'est étrange, n'est-ce pas, quand on dit qu'on est allié avec soi-même, lorsqu'on dit qu'il y a une alliance entre nous-mêmes et nous-mêmes, ça paraît étrange si on a l'impression que si l'un meurt, eh bien les deux vont mourir. C'est pour ça que le monde ne comprend pas quand on parle de mourir à soi-même. C'est pour ça que le monde ne comprend pas quand on dit « j'étais mort, j'ai dû passer par la mort, j'ai dû être crucifié avec Christ ». C'est pour ça que le monde ne peut pas saisir cela, parce que probablement il n'a pas compris le message qui est là depuis la Genèse et qui est encore présent en Romains. Mais c'est nécessaire qu'il y ait cette mort. Mais l'alliance qui existe entre ces deux parties, eh bien, elle est gérée par la loi. Dieu a donné la loi, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament? Il a donné la loi, mais la loi vient poser un problème. C'est comme s'il y a adultère. Essayez de comprendre ce que je vais dire, je vais essayer de le clarifier. C'est comme s'il y a adultère. Parce que dans un adultère, il y a l'union de l'homme et de la femme, et il y a une tierce personne qui intervient. Et ici, il est question d'une puissance qui vient intervenir pour gérer la relation entre moi-même et ma personnalité, moi-même et ce que je suis. Il y a une puissance qui intervient, et c'est la loi. Parce que Dieu a donné la loi pour nous protéger. N'est-ce pas, si vous lisez le verset 1 de Romains 7, je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Nous sommes dès notre naissance sous la loi, sous des lois physiques. N'est-ce pas, vous avez la gravitation qui s'exerce constamment sur vous, sinon vous seriez en train de toucher le plafond. Mais heureusement qu'on a la gravitation, c'est merveilleux, mais c'est quelquefois embêtant aussi. On aimerait ne pas la voir à certains moments, quand il y a des embouteillages, quelquefois j'aimerais pouvoir échapper à la gravitation et passer au-dessus. Mais on a ces lois physiques, on a des lois biologiques, des lois physiologiques qui gèrent notre organisme. Notre organisme est constitué ou fonctionne parce qu'il y a des millions de lois qui interagissent. Par hasard, nous dira le monde, qui interagissent de manière concordante pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse s'adapter, pour qu'on puisse survivre. Mais ces lois, si on les refuse, eh bien, on meurt, n'est-ce pas? Donc, tant qu'on vit, on sera géré par ces lois. Et il y a aussi les lois sociales qui sont obligatoires. Il faut un code de la route. Si on va dans un pays où on nous dit, voilà, tout le monde peut conduire comme il veut sur la route, ça serait bien, parce qu'on n'aurait pas de contravention, on n'aurait pas d'amende, mais il y aurait aussi beaucoup de problèmes, je pense. Ça ne peut pas fonctionner. Une société ne peut pas fonctionner sans loi. Il faut des lois sociales. Il faut des lois humaines dans les familles, dans les entreprises, dans la société en général. Et la loi est au cœur du fonctionnement, n'est-ce pas, des sociétés. Les sociétés qui laissent tomber la loi sont des sociétés qui dégénèrent. Et on est en train de vivre un peu cela actuellement, où des murs porteurs de la société sont abattus parce que ça gêne. C'est vrai. Vous avez chez vous une pièce qui est trop petite, Vous dites, mais si j'abats le mur, ce sera plus grand. C'est d'une logique implacable. Mais avant d'abattre le mur, vous allez vous renseigner, j'espère, si le mur est porteur. Et là, on a vu qu'on pouvait agrandir et on abat les murs. Mais il y a des lois qui gèrent nos vies et nous devons accepter cela. Mais la question est de savoir maintenant, ici, dans la loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle vient faire? Eh bien, elle vient réguler le fonctionnement de nos vies pour nous éviter de courir à la catastrophe, pour nous éviter de tomber très bas, de dégénérer, comme je disais tout à l'heure. Mais cette loi vient lutter contre ma volonté. Et voilà cette alliance un peu plus précise maintenant. C'est que je suis, de par ma naissance, lié à ma volonté, à ma personnalité, à ce que moi je désire. Et ça se manifeste dès la naissance. L'enfant va exprimer sans aucune considération de son entourage ce qu'il veut. Lorsqu'il a faim, il va pleurer. Que ses parents soient profondément endormis ou pas, ça n'a aucune importance. J'ai faim, donc je pleure. Et si mes parents ne répondent pas, je pleure encore plus fort. Voilà comment l'enfant va survivre. Parce que s'il était géré par une loi morale qui lui disait « Non, réveille pas tes parents », eh bien, il mourrait. Il mourrait parce que les parents dormiraient, ne le nourriraient pas et il serait en insuffisance, carence alimentaire. Ça veut dire que dès la naissance, je vais accomplir ma volonté. Et on est dans un principe animal, un principe d'adaptation et de survie. Oh, les chrétiens n'aiment pas ça parce que c'est une terminologie évolutionniste. Mais non, c'est les évolutionnistes qui ont pris cette terminologie à la création de Dieu. Il ne faut pas inverser les choses. L'évolutionnisme, c'est récent. C'est d'ailleurs déjà partiellement périmé. De plus en plus de scientifiques, maintenant dans des revues scientifiques internationales, comités de lecture, qui publie maintenant des articles qui remettent en question la théorie de l'évolution. C'est une nouveauté, ça fait du bien de voir ça. Mais la question est effectivement une question de survie et d'adaptation, mais c'est purement égoïste. C'est au fond, je veux servir, je veux être allié avec moi-même et voir mes intérêts et moi-même, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui va faire que les animaux survivent. C'est ça qui va faire que l'on survit au début. Et quand on grandit, on apprend, quand on est dans les milieux chrétiens ou les milieux, par exemple les enfants juifs ont la même chose, les enfants musulmans ont la même chose, ils entendent la loi. Il y a la loi qui leur est donnée. Il y a un enseignement moral qui leur est donné, un enseignement de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous remarquez que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, c'est précisément ce que va faire la loi. Et cette loi est venue parce que l'homme a goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que je veux me servir, je suis uni à moi-même, je suis libre de faire ce que je veux. Et voilà que dans cette alliance qui fonctionnait bien, il y a la loi qui tombe et qui me dit non, tu ne fais pas ça parce que si tu fais ça, ça va faire du mal. Et ça vient perturber cette tranquillité. Ça vient comme une relation, n'est-ce pas, qui n'est plus à deux mais à trois. Où je veux faire plaisir à ma volonté, je veux servir ma volonté. Mais il y a la loi qui vient et qui me dit non. Et il y a donc un conflit. Combien de chrétiens décrivent leur relation avec Dieu de la sorte? Mais ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça. L'évangile, c'est ce qui est décrit ici dans Romains chapitre 7 au début. Il dit, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. qu'il a lié à son mari, c'est la traduction de Louis II. J'ai regardé, et apparemment, dans le grec, c'est « elle est libérée quand il meurt, elle est dégagée de la loi de son mari ». C'est-à-dire que ce qui dicte nos vies, c'est notre volonté, c'est notre moi. Et ça sera comme ça jusqu'au bout. Parce que si je commence à vouloir contrôler cela, si je commence à dire non, je ne vais pas faire ça, je vais obéir à la loi, eh bien d'une certaine façon, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'adultère. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du conflit. Il y a quelque chose qui fait que je suis en conflit avec moi-même et je suis en conflit avec la loi parce que moi j'ai envie, etc. Et la solution de l'Évangile, c'est qu'il faut qu'il y ait mort. Et c'est la merveilleuse espérance de l'Évangile, n'est-ce pas ? C'est le message de la mort, premièrement. Combien d'églises où on prêche la vie ? Et on dit, bien sûr on prêche la vie, parce que Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité, la vie. Mais la vie n'existe pour nous que par la mort préalable. Et pas la mort physique, évidemment. Mais c'est la mort de cette volonté. C'est de cette mort de cette personnalité qui dirige notre vie, à laquelle nous sommes alliés depuis notre naissance. Et de laquelle on ne peut pas rompre, même si la loi essaie de le faire. Parce qu'on est tellement unis que ça serait une déchirure et une impossibilité de vivre. Donc, le message de l'Évangile, c'est la mort d'abord. Et quand dans les églises, on va dire, voilà, il faut que ça vive, alors vous allez apprendre des comportements pour que l'Église soit vivante. Eh bien, on est en train juste de fonctionner selon un principe animal. C'est-à-dire, on est en train de juste essayer d'accomplir sa volonté. Le message de l'Évangile, c'est la repentance et c'est la mort, tout d'abord. Et si vous n'êtes pas passé par la mort à vous-même, si vous n'êtes pas passé par cette crucifixion avec Christ, c'est ce dont il est question dans le chapitre 6, parce que Romains 7 ne se lit pas sans 6 et 8. Ça ne peut pas se lire en dehors de 6 et 8. Ne faites pas cette erreur. C'est Romains 6, 7, 8. Et comme je dis toujours, c'est évidemment de Genèse 1 à Apocalypse 21. D'accord ? Mais bon, ça vous ne pourrez pas le faire chez vous aujourd'hui en rentrant avant de manger. Donc Romains 6, 7, 8, ça va. Et cette mort à soi-même, en disant « Seigneur, je veux céder, je veux arrêter d'avoir ma volonté. » Pour Jésus, c'était naturel à Gethsémané, comme ça a été rappelé ce matin, dans une prière. Non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. C'est quelque chose de naturel dans la nature de Christ. Et ma question, c'est est-ce que ce matin on a cédé à notre volonté, à notre soi, à notre moi, à ce maître qui gouverne notre vie, cet égoïsme. Vous savez que l'égoïsme se déguise merveilleusement. L'égocentrisme se déguise merveilleusement. Il y a des humanistes qui sont les plus grands égoïstes. Et l'humanisme est juste un déguisement. Et on peut vivre avec des masques, on peut vivre avec un déguisement de chrétien. Je vais me déguiser en chrétien ce matin parce que je vais au culte. Et quand je rentre à la maison, je vais enlever mon déguisement parce que ça fait chaud, hein, c'est désagréable d'avoir un déguisement sur soi. La question c'est, est-ce que votre déguisement il est bien fait ? Et c'est la question qui m'est posée, si est-ce que je suis mort à moi-même ? Est-ce que je peux dire oui, Seigneur, je suis passé par la crucifixion avec Christ. Je suis passé par cette mort pour pouvoir connaître la vie nouvelle et la résurrection après. Vous savez, dans l'histoire de Ruth, dans l'Ancien Testament, cette femme fidèle, une Moabite, n'est-ce pas, une descendante de Lot, si vous vous rappelez mon dernier message, une femme qui avait un passé terrible, le peuple de Moab, Moab était ennemi du peuple de Dieu. Elle avait dans ses gènes des choses qui remontaient à Sodome et Gomorre. Mais voilà que cette femme a dit à sa belle-mère, un jour ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle a dit, j'abandonne ce que j'ai reçu, mon éducation. J'abandonne ce qui fait que je suis moi. Je l'abandonne pour pouvoir suivre ton peuple, pour pouvoir retourner avec toi à Bethléem, qui est la maison du pain. Bethléem, c'est la maison du pain. C'est là où je veux être. Et parce qu'elle a eu cette attitude-là, eh bien, Dieu lui a permis de rencontrer Boaz, un homme de Dieu, un homme solide, un homme établi, dont elle deviendra l'épouse. Mais Boaz ne pouvait pas se marier avec elle. Il y avait un problème. Et ce matin, il y a ce problème aussi. Peut-être vous dites, voilà, oui, Seigneur, moi, je voudrais ce matin, je voudrais me donner à Dieu. Oui, je voudrais rentrer dans cette alliance avec Jésus-Christ qui va me libérer. Eh bien, Jésus va vous dire, alors je veux, mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'il y a quelqu'un qui a le droit de rachat avant moi. Et je voudrais vous dire que ce matin, il y a quelqu'un qui a le droit de rachat avant Jésus-Christ. C'est vous-même. Et il a fallu attendre que celui qui avait le droit de rachat sur la vie de Ruth, eh bien, puisse céder et dire non, je ne prends pas. C'est à toi, Boaz. Et ce matin, est-ce que vous êtes prêt à fléchir le genou? Est-ce que je suis prêt à fléchir le genou pour dire, je sais que moi, j'ai le droit de rachat sur ma vie, mais je veux céder pour que ce soit Jésus-Christ. Je veux céder à ma volonté. Je veux céder pour que ce soit Christ qui prenne contrôle de ma vie, pour que je sois totalement à lui. Oh, quand on se donne, les gens qui veulent se donner au Seigneur, qui commencent à poser des questions, est-ce que je ne vais plus pouvoir faire ceci? Est-ce que je ne vais plus pouvoir sortir le samedi soir? Il vaut mieux leur dire, continuez à sortir le samedi soir. Faites votre volonté. Si on n'est pas prêt, n'est-ce pas, à donner sa vie, à dire je cède, je renonce à ce que je suis pour te servir, eh bien il n'y a pas d'évangile. Parce que c'est ça l'évangile. Et c'est ce qui est décrit ici, dans ce début du chapitre 7, au verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. » Il faut qu'il y ait cette mise à mort de soi-même, de sa propre volonté, en disant « Seigneur, voilà, je viens à toi, et c'est toi qui prends le contrôle de ma vie maintenant. » Et je veux que ce soit ton esprit qui contrôle ma vie, et plus mon esprit qui contrôle ma vie. Plus ma volonté, mais que la tienne se fasse, que ta volonté contrôle ma vie, enfin. Et c'est là où il y a la libération. C'est là où on peut commencer à dire, Seigneur, je suis libre. Seigneur, je n'ai plus de volonté, je n'ai plus le désir que ça aille dans une direction particulière. Et toi, tu me dis que ça doit aller dans cette... C'est là où il y a conflit, n'est-ce pas? Il y a un conflit de force. il y a des tensions. Parce que la tension, c'est quand une force tire d'un côté, une autre force tire de l'autre. Il n'y a plus cette tension, je peux être libre d'avancer. Et c'est ça l'Évangile, c'est ça que Jésus-Christ vient apporter. Le terme qui est utilisé pour la loi ici, au début, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari en grec, c'est nomos. Et j'aimerais juste utiliser ce terme pour dire, voilà le nom qu'on a reçu, c'est le nom que la femme reçoit, c'est le sel de son mari. Le nom qu'on reçoit, c'est celui avec lequel on est lié. Et quel est votre nom ce matin? Est-ce que vous pouvez dire, moi, mon nom, j'ai le nom de chrétien? Vous savez, c'est le monde qui va vous appeler comme ça. Ce n'est pas forcément Jésus. Jésus, il a vu Simon, il a dit, je vais t'appeler autrement. Saül de Tarse a abandonné son prénom de Saül, probablement parce qu'il ne voulait pas être identifié à cet homme-là. Et il a dit, je vais m'appeler Paul. Maintenant, ou c'est les chrétiens qui l'ont dit, on va t'appeler Paul, on ne va pas t'appeler Saül. Il y a eu beaucoup de changements de nom. Mais effectivement, on a Dieu a un nom pour nous. Il y a des églises qui disent qu'il faut trouver ce nom. Mais pourquoi trouver ce nom? C'est le monde qui doit te donner le nom et le prononcer. Quand le monde te regarde, comment il t'appelle? J'étais très touché par quelqu'un qui était appelé Jésus, que je connaissais. Et c'était un jeune qui vivait droitement avec Jésus. Et les autres, pour se moquer, disaient « Salut Jésus !» Mais quel honneur! Quel honneur! Parce que c'était le monde qui lui avait donné ce nom-là. Et le nom, c'est l'autorité qui gouverne votre vie. Et si les gens vous appellent Jésus, eh bien, c'est très bon signe, il ne faut pas en avoir honte. Parce que ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'il y a quelque chose. Si les gens vous appellent chrétien, parce qu'ils reconnaissent en vous le Christ, eh bien, c'est ça qui est merveilleux. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que votre vie est gouvernée par le Christ, est gouvernée par Jésus. Et c'est ça qu'on a besoin. Mais malheureusement, c'est souvent notre nom qui est écrit. C'est souvent écrit « moi ». Et vous savez, quand c'est écrit « moi », parce que vous savez que vous avez les réactions qui disent « et moi ». Quand quelqu'un vous sollicite un peu trop, « oui, mais moi, je dois penser à moi un peu ». Quand on vous dit des choses dures, vous êtes blessé, profondément vexé. Mais si vous êtes mort, vous avez déjà essayé d'insulter un mort, vous regardez sa réaction. Aucun effet. Si on est mort à soi-même, il ne devrait pas y avoir d'effet. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui vit en nous, n'est-ce pas? Le moi vit en nous. On n'est pas libéré, n'est-ce pas? On n'a pas connu l'Évangile. Dans la plénitude de l'Évangile. Et la plénitude de l'Évangile, c'est pas crier, danser, sauter de joie dans une église. La plénitude de l'Évangile, c'est être à genoux. C'est de pouvoir être devant Dieu en disant, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Sauve-moi de tout ce qui est en moi qui recherche mon intérêt. Combien de gens sont déçus parce qu'on ne les a pas reconnus? On ne les a pas mis en avant, on n'a jamais sollicité pour ceci ou cela, alors qu'ils avaient des compétences. Dieu n'a pas besoin de vos compétences. J'ai même entendu parfois des gens qui disaient, voilà, ça c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, Dieu pourrait utiliser ça. Vous savez que votre forte personnalité, elle doit passer par la croix du calvaire et elle doit être détruite. Qu'est-ce que Dieu va faire avec votre forte personnalité, qui est un autre mot pour dire sale caractère? Vous croyez que Dieu va prendre quelque chose de sale pour son travail? Mais on ne veut pas perdre son caractère. On ne veut pas perdre sa personnalité parce que ça fait notre identité. On ne veut pas perdre son caractère parce que c'est aussi notre histoire familiale. Il y a des raisons pour lesquelles on a ça. On a besoin, n'est-ce pas, de passer par la croix du calvaire en disant « Seigneur, il n'y a pas de moyen. La loi ne peut pas gérer, ça crée des conflits dans ma vie. Et je ne peux pas vivre dans cette situation d'adultère, de la loi qui vient gérer, qui vient dire « Voilà, non, cette alliance ne va pas, il faut faire comme ça. C'est moi qui dis, et ma nature qui dit « Non, c'est moi qui dis, etc. » Et ils se disputent entre eux. Vous avez le droit de dire « Seigneur, je ne peux plus lutter dans cette situation. Je ne peux pas lutter contre mes colères. » Les gens qui ont des colères et qui essayent de dire, chercher un verset dans la Bible qui justifie la colère, ne seront pas délivrés, ne seront pas libérés parce qu'ils essayent de justifier. Ils essayent de tourner les versets de la Bible pour montrer que Jésus avait de la colère. On peut faire tout ce qu'on veut. J'ai entendu des atrocités pour justifier des péchés, des atrocités dans la Bible, des gens qui utilisaient des versets bibliques pour justifier ça. Le seul moyen d'être délivré de la colère, c'est de pouvoir dire « Seigneur, brise-moi, fais-moi passer par la croix du calvaire. » Alors vous dites « Mais moi, je me suis donné au Seigneur il y a des années, donc je suis passé par la croix. » Le seul moyen de savoir si vraiment vous êtes passé par la croix du calvaire il y a des années, c'est de savoir si vous passez par la croix du calvaire tous les jours. Et est-ce que tous les jours, vous êtes devant Dieu en disant « Seigneur, change-moi, rends-moi comme toi, rends-moi comme toi, pour que moi je meure, afin que ma vie nouvelle, ce soit une alliance avec Jésus-Christ. » Et que ce soit Jésus-Christ qui soit le nom que je porte, qui soit l'autorité sur ma vie, qui dirige ma vie. Et je veux renoncer à ce que j'ai envie de faire. Je veux renoncer à mes projets. Peut-être que Dieu permettra à vos projets de se réaliser, mais c'est lui qui décidera. Et vous savez que si on regarde le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, il est souvent prononcé. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. N'est-ce pas? Dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Donc si vous portez le nom de Dieu, vous devez être sanctifié. Quand vous dites, si vous êtes vraiment au Seigneur, et vous dites que ton nom soit sanctifié, vous êtes en train de dire que je sois sanctifié parce que je porte ton nom sur la terre. Jésus portait le nom de Dieu sur la terre. Et Jésus n'est plus là et c'est à nous de porter le nom de Dieu, le nom de Jésus sur la terre. C'est nous, c'est ce que vous lisez dans Jean 14, 15 et 16, où Jésus promet que le Saint-Esprit viendra pour le remplacer. Et le Saint-Esprit habitera dans la vie des hommes et des femmes pour qu'il soit Jésus-Christ sur la terre. C'est ça qui glorifie, qui sanctifie le nom de Jésus. Encore une fois, ce verset qu'on cite très souvent dans les milieux évangéliques, « Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. » Ce n'est pas vrai, tel que l'on entend dans les milieux évangéliques. C'est vrai, bien sûr, parce que c'est la parole de Dieu. C'est parce que en son nom, on dit « Voilà, on se rassemble en son nom, donc on s'est rassemblé en son nom. » Jésus est très souvent absent de ces rassemblements-là. Il est très souvent absent des réunions chrétiennes, dites chrétiennes, parce qu'ils ne sont pas rassemblés en son nom. En son nom, ça veut dire sous son autorité, où c'est lui qui dirige. On n'a pas à être directif. On n'a pas à commencer à diriger l'Église. Les anciens ne doivent pas diriger l'Église. Ils doivent juste superviser et laisser l'Esprit de Dieu diriger l'Église. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, alors ce n'est pas la peine. On ne se rassemble pas au nom de Jésus-Christ. Ça doit être Jésus-Christ qui dirige. Ça doit être Jésus-Christ qui inspire dans les cœurs. Ça doit être la présence de Dieu qui dirige. C'est de la présence de Dieu qui parle. Si un dimanche matin, il n'y avait pas de prédication, parce que le silence a mis plusieurs personnes à genoux, eh bien, gloire à Dieu, c'est ça qu'il faudrait. S'il n'y avait plus de prédication dans l'Église, c'est ça qu'il faudrait. Vous dites, mais l'apôtre Paul exhortait, mais les exhortations, nous les avons. Nous avons suffisamment pour être touchés chez soi. C'est ça, vers ça qu'il faut tendre. Que les hommes puissent s'abaisser. Que notre volonté, n'est-ce pas? Quelquefois, on m'a parlé de la vision de l'Église. Quelle vision vous avez pour l'Église? La vision pour l'Église, c'est que l'Esprit de Dieu fasse ce qu'il veut. C'est pas que l'Église grandisse en nombre, c'est pas que l'Église puisse faire ceci ou cela, c'est que l'Église fasse la volonté de l'Esprit tel qu'il le décide, sans que ça soit passé par ma volonté. Le nom qu'il met, il le met sur notre front. N'est-ce pas? Pas de manière physique, mais ça se voit. C'est pour ça que le monde va le déclarer. Le nom va être prononcé par le monde lui-même. Et malheureusement, l'image du christianisme que la France a est désastreuse. Et c'est pour ça que la France a dégringolé, n'est-ce pas, s'éloigné. Parce qu'ils n'ont pas vu des vrais chrétiens. Mais quand vous voyez les vrais chrétiens, vous êtes interpellés par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de certain. Donc voilà, dans Ézéchiel, il est dit aussi, chapitre 36, qu'il agirait à cause de son nom, pas à cause de ce que le peuple a fait. Mais que Dieu agirait pour eux à cause de son nom. Il les bénirait malgré leur désobéissance à cause de son nom. Et cette alliance, elle est tellement merveilleuse parce que le désir de Jésus-Christ, c'est pas de nous dire, voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est moi qui commande maintenant. Vous avez vu Jésus dans Jean chapitre 13? Il se met à genoux devant ses disciples et il lave leurs pieds. Le cœur de Jésus, le cœur de l'Esprit de Dieu, c'est de servir. Le cœur de Dieu, c'est de pouvoir bénir. C'est de pouvoir donner le pardon. Combien de gens n'arrivent pas à saisir ce pardon? Mais demain, pourquoi vous ne saisissez pas le pardon? Parce que vos parents ne vous ont pas pardonné. Parce que le monde ne vous pardonne pas. Le monde est terrible pour ne pas pardonner. Parce que quand on vous a dit quand vous avez dit que vous avez fait quelque chose, on vous a dit c'est tellement mal, c'est tellement grave. Et vous ressentez ça à chaque fois que vous pensez à ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas trouver le pardon. Parce que quand vous pensez à ce que vous avez fait, il y a quelque chose qui vient s'imprégner dans votre cerveau qui est grave. Mais la mort à soi-même, c'est précisément la mort à ce que j'ai appris. Et demandez au Seigneur qu'il vous fasse connaître son pardon. Demandez à Dieu le pardon, le pardon. Repentez-vous jusqu'à ce que vous sentiez le pardon de Dieu et la délivrance. Et levez-vous et laissez l'Esprit de Dieu guider votre vie. Parmi les gens, les hommes et les femmes qui ont servi Dieu, il y a des gens qui avaient un passé très lourd, qui avaient tellement besoin d'être pardonnés. Mais l'Esprit de Dieu fait ça à cause de son nom. Parce qu'il sait qu'il veut vous donner son nom, alors il veut faire ça, pas parce que vous le méritez, mais parce que c'est sa nature de le faire. Que ce matin, nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. C'est ça la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est ça l'unité avec le Seigneur Jésus. C'est cette mort à soi-même qui permet ce mariage sans problème, sans conflit, entre soi-même et le Seigneur Jésus lui-même. Et j'aimerais terminer en disant que si vous lisez chez vous le début du chapitre 7 de Romains, et si vous voyez le verset 6, il est dit « Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. » C'est que la loi, c'est la lettre, c'est écrit quelque part. La loi, elle est écrite peut-être dans vos mémoires, dans votre cerveau. Vous avez entendu des choses depuis votre enfance ou dans l'église. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Vous êtes conscient de la volonté de Dieu. Mais elle n'a aucun effet autre que vous signaler que ça ne va pas. Et ça, c'est la loi. Parce que la lettre a une vraie puissance lorsqu'elle est incarnée par un esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui incarne cette lettre, qui fait que ça devient parole vivante pour nous. Et j'aimerais que ce matin, on soit conscient que ce n'est plus la lettre. C'est plus la loi qui commande notre vie. Ça ne doit plus être. Ça doit être Jésus-Christ, la parole vivante. Et d'être dirigé par la parole de Dieu plutôt que par la loi et les commandements et les instructions, eh bien, c'est une libération, n'est-ce pas? Que l'on connaisse ça, que je connaisse ça, et que Dieu nous bénisse en tant qu'Église. On va prier peut-être pour terminer. Seigneur, merci pour l'enseignement de l'Évangile. Seigneur, combien les peuples qui connaissent des religions où il leur est dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de faire ceci ou cela, Seigneur, sont esclaves. Surtout quand ce qui leur est demandé est contre nature. Et Seigneur, dans ma nature, je ne peux que faire ce qui m'apporte la satisfaction, le plaisir, la survie. Et Seigneur, si la loi dit qu'il ne faut pas que ce soit comme ça, il y a quelque chose de contre-nature qui s'exerce. Mais Seigneur, si ton esprit vient mettre à mort dans ma vie tout ce qui est de moi-même, de ma volonté, de ma personnalité, et si tu viens ressusciter dans ma vie, et vivre, Seigneur, c'est toi qui contrôles, par l'Esprit Saint, que tu fasses cette œuvre en moi, que tu fasses cette œuvre dans chacun d'entre nous. Seigneur, afin que ce ne soit pas nous qui vivions, mais Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul pouvait le déclarer sans hésitation, parce qu'autour de lui, tout le monde le déclarait, parce que le monde, les autorités spirituelles savaient très bien que ce n'était pas lui qui vivait, mais Christ qui vivait en lui. Amen.